Et on va faire un petit bout des gens en politique américaine avec l'ami Luc. Bonjour Luc.
Salut Bernard.
Parce que là, à la fin de la deuxième heure, je parlais des impôts que Trump n'a pas payés ou si peu. Et dans le fond, on avait l'intention d'en parler. Fait qu'on disons que Pat et moi avons mis la table pour que toi, tu puisses enchaîner. Alors, on t'écoute, mon ami.
Ben alors, c'est pas très compliqué. Le New York Times a mis la main sur ce qu'ils appellent des données. Data. Concernant les impôts de Donald Trump depuis 20 ans. Ses impôts à lui et à ses centaines, les impôts de ses centaines de corporations. Ça démontre quoi? Que il a payé l'année de son élection en 2016 $750 d'impôts fédéraux, que dans 15 des années précédentes, il y en a au moins 10 où il n'a pas payé d'impôts du tout. Il ne déclare finalement que des pertes. On est en train de constater, et ça, moi, je n'en ai jamais douté, ce que le New York Times rapporte, c'est plus de $400 millions de dettes garanties personnellement par Trump et qui viennent à échéance très bientôt. Mais le magazine Forbes aux États-Unis en ajoute, dit que c'est plutôt $1.1 milliard.
Ça, c'est de l'argent qu'il doit rembourser là, à court terme?
Oui, absolument. Oui, qu'il doit rembourser à court terme. Ce qui fait dire à certaines personnes qu'il est comme un danger à la sécurité nationale. Je veux dire, en 1990, il n'y avait plus une scène. Il était en faillite. Et là, il prétend valoir 10 milliards, ce qui est clairement faux. Il vaut pas 10 milliards, il vaut même pas 1 milliard, d'après moi.
Et là, c'est un danger à la sécurité parce qu'il est vulnérable au chantage.
Ben évidemment, mais qui détient les dettes là? C'est ça que j'aimerais vraiment savoir. Qui détient les dettes?
On pense que les Russes en détiennent, hein?
On pense en fait que ce sont eux qui ont la majeure partie des dettes de Trump à travers des espèces d'entourloupettes via la Deutsche Bank en Allemagne. Et via une banque à Chypre. Alors, Trump se réveille, et puis là, le milliardaire de 10 milliards, j'ai jamais cru à ça. Et il s'avère que ses propriétés tangibles, ses propriétés immobilières sont tellement endettées et perdent tellement d'argent que ça n'a plus de valeur. En fait, la seule valeur qui lui reste, c'est la valeur de son nom, c'est-à-dire prêter de Trump Tower, ceci, puis cela, puis Trump Golf Club, puis ainsi de suite. Mais le problème avec ça, c'est que s'il perd ses élections à Maison-Blanche, là, je veux dire, le nom Trump, il va disparaître, hein? Il va disparaître comme puissance d'attraction commerciale. Alors, il est dans un état extrêmement... Il s'est contenté de dire que c'était... comment il a appelé ça? De la nouvelle bidon, là? Fake news?
Fake news.
Mais je pense pas qu'un quotidien de l'envergure et de la renommée du New York Times irait de l'avant avec une nouvelle aussi explosive à la veille du premier débat, sans l'avoir vérifié, contre-vérifié 8 fois, 10 fois, 20 fois. Alors, Trump est devant sa réalité. Sa réalité, c'est que pour ajouter des pertes à ses pertes, il versait, mettons, $800 000 à Ivanka comme honoraire de consultation. Puis il en versait un autre 400-500 000 à quelqu'un ici. Puis là, tout était bidon dans ça. Et c'est pourquoi il y a une vérification comptable qui est faite par le ministère du Revenu des États-Unis, parce qu'ils prétendent qu'il leur doit $79 millions. Alors, voilà,
l'impôt,
Trump...
L'impôt américain réclame combien, tu dis?
$79 millions.
En plus du 300 quelques millions qu'il doit rembourser à court terme?
Oui, tout à fait. Absolument. Puis comme tu sais, les ministères du Revenu sont un peu pareils un peu partout dans le monde.
Mais tant qu'il est président, il est probablement inatteignable. C'est ça l'affaire. Il y a une maudite bonne raison de se faire réélire, lui-là. Hein?
Oui, il y a une drôle de bonne raison de se faire réélire. Et surtout, ça explique tellement de choses concernant sa relation avec la Russie. Tu vois bien que le gars, il y a quelqu'un qui le tient par, comme disait Jean Lapierre autrefois, par les bijoux de famille. Tu sais, c'est assez frappant. C'est assez extraordinaire.
OK, on va parler du débat une vingtaine de minutes avec Valérie Beaudoin. Oui. Tu seras avec nous parce qu'évidemment, c'est un débat qu'on va suivre avec beaucoup, beaucoup d'intérêt. Mais on a décidé, Luc, en ce beau lundi, compte tenu là, de ce qui nous pend au bout du nez, qu'on est dans le début d'une deuxième vague et puis les annonces qui s'en viennent de la part de Legault, on s'est dit que ça pourrait être un bon moment pour toi de reprendre ta chronique « Le tour du monde de la COVID ».
Oui, parce qu'effectivement, on a tendance à penser que ça s'est calmé ailleurs. C'est loin d'être le cas. Hein. Alors, si je fais juste un regard à l'échelle du monde, la pandémie a fait au moins 1,2 000 morts dans le monde. Je parle d'il y a 20 minutes. Plus de 33,1 millions de cas ont été officiellement diagnostiqués depuis le début de la pandémie. 22,7 millions de personnes, de ces personnes-là, sont aujourd'hui considérées comme guéries.
Oui.
Alors, dans l'ordre, le nombre de décès, les États-Unis viennent en tête à 205 000, le Brésil est à 142 000, l'Inde à 100 000 et le Mexique 76 000. À eux seuls, ces pays-là comptabilisent plus de la moitié des morts recensées dans le monde.
Wow! Wow.
Aux États-Unis, on dénombre à l'heure actuelle, voilà, 200... En fait, on est rendu plus à 210 000, j'ai dit 205, mais c'était la dernière qui était parue. Vendredi dernier, la barre des 7 millions de cas a été franchie. Et même si les autorités semblent avoir repris le contrôle, ça demeure l'État de New York qui comptabilise le plus grand nombre de décès. On retrouve ensuite la Californie, le Texas et la Floride. Samedi, l'État de New York, c'est notre voisin après tout, a enregistré pour la première fois depuis juin plus de 1000 cas de contamination. Mm. Et la situation s'est grandement améliorée malgré tout. À compter de mercredi, les restaurants de New York pourront recevoir de la clientèle pour la première fois depuis le mois de mars, mais ils devront se contenter de 25 % de leur capacité.
Okay. OK.
Au Brésil, c'est intéressant. Ils y ont tellement goûté qu'une importante ville, la légendaire Manaus, hein, l'endroit où il y a une salle d'opéra en plein milieu de l'Amazon, on dit que Manaus, selon une étude scientifique, aurait atteint l'immunité collective. Selon cette étude-là, 66 % des citoyens de cette ville posséderaient des anticorps contre la COVID. Ce taux serait suffisamment élevé pour que la maladie ne puisse plus se propager efficacement, selon les 34 chercheurs brésiliens. Cette capitale de l'Amazonie, 2,2 millions d'habitants, avait été le théâtre d'images d'hôpitaux débordés, de cadavres entassés dans des camions frigorifiques, de fosses communes.
Oui, bien c'est ça. Pour arriver à un taux d'immunité de 64 %,
il a fallu qu'il y ait des morts.
Luc, je veux juste être clair. Les États-Unis, tu nous as dit 210 000 morts. Après ça, tu nous as dit la deuxième place, c'est le Brésil avec 142 000 morts.
Oui. L'Inde à 100 000.
L'Inde à 100 000, puis le Mexique.
Mais ces chiffres-là ne sont pas plus fiables que ça. Tu prends le cas du Brésil, je suis convaincu que c'est plus que 142 000 compte tenu de ce qui s'est passé là. Puis en Inde, je pense qu'ils n'ont même pas les moyens de comptabiliser véritablement.
Puis les États-Unis, on sait qu'à un moment donné, ils ne comptaient pas les décès dans les résidences pour aînés, là.
Oui, tout à fait. Ah. Et en Inde, tiens, je vais y aller en Inde. Ben, 6,1 millions de cas. Et on dit qu'elle pourrait, dans les prochaines semaines, dépasser les États-Unis, où on dénombre 7,2 millions de cas confirmés. C'est vraiment un des pays, l'Inde, qui préoccupe le plus les experts en raison de sa population d'1,3 milliard d'habitants et du fait qu'elle compte certaines des villes les plus densément peuplées au monde. Écoute ça, ce pays enregistre présentement officiellement de 80 à 90 000 nouveaux cas quotidiennement.
Et
c'est pas rien, hein?
Bateau! Nous autres, on capote avec 900, toi.
Ah, ben oui, tu comprends. Le Pérou, qui demeure un des pays les plus durement touchés au monde, on y dénombre 788 930 cas confirmés avec 6 235 nouvelles infections au cours des dernières 24 heures. Mais on voit quand même de la lumière au bout du tunnel. Le nombre quotidien de nouveaux cas a diminué de moitié par rapport au mois d'août. Mmh. En France...
Oui, j'allais te poser la question de la France, mon ami.
On continue d'enregistrer près de 15 000 nouveaux cas par jour. Ce qui est très inquiétant, c'est que le taux de positivité poursuit sa hausse.
Ouais.
En France, à l'heure actuelle, on teste à peu près 180 000 personnes par jour. À l'heure actuelle, le pourcentage de personnes contaminées parmi les personnes testées est de 7,2 %. C'est très, très élevé.
Oh boy! Nous autres, on était à quoi? C'est 3 %, je pense, notre taux de positivité?
À peu près 2,5-3.
Alors,
39 personnes qui sont décédées dans les dernières 24 heures, 56 dans les 24 heures précédentes, et depuis le début de la pandémie, au moins 31 700 décès. Et la santé publique française a averti vendredi dernier que l'épidémie est, et je cite, « dans une phase ascendante ». Et aujourd'hui, un grand nombre de médecins ont signé une lettre ouverte demandant au gouvernement de mettre en place des mesures drastiques. C'est de ça qu'on parlait tantôt, là. Les médecins en France disent que ça va prendre des mesures drastiques pour au moins 2-3 semaines pour casser la courbe. En Espagne, ça va pas très bien non plus, hein? Ils ont enregistré jusqu'à maintenant plus de 700 000 cas, 31 000 morts. Et des nouvelles mesures pour combattre le virus sont mises en place sur une base quasi quotidienne. Depuis ce matin, plus d'un million d'habitants de la région de Madrid ne peuvent sortir de leur quartier que pour des raisons de première nécessité. J'arrive au Royaume-Uni. L'Angleterre demeure le pays le plus touché d'Europe avec près de 42 000 morts. Le gouvernement vient d'interdire les rassemblements de plus de 6 personnes. Et il faut savoir que l'Angleterre compte également son lot d'épais. Samedi, une manifestation de milliers d'opposants aux restrictions s'est terminée par 10 arrestations et 4 policiers blessés. Et écoute celle-là. Parmi les leaders de la manifestation, on retrouvait un certain David Icke, qui s'est illustré dans le passé en soutenant que le monde était gouverné par des reptiles et que la famille royale britannique était en fait constituée de lézards. Oh, oh. Et Boris Johnson a répondu à ses conspirationnistes en disant qu'il s'agissait de dangereux obsédés.
Oui.
En Grèce, au cours du week-end, il était très heureux de recommencer à recevoir des milliers de touristes qui font des croisières. Malheureusement, le premier navire de croisière à accoster dans le pays était infesté. Une douzaine de membres d'équipage ont été testés positifs. Il y a 922 passagers à bord et tous ces passagers vont subir des tests, mais pour l'instant sont isolés à bord en attendant une décision des autorités du pays. La bonne nouvelle...
Ça n'arrête pas de bien aller, mon Luc.
Non, mais la bonne nouvelle, il y en a une bonne ici.
Oui.
L'Organisation mondiale de la santé a affirmé que l'Afrique a été épargnée par la propagation exponentielle de la COVID. L'OMS estime que la faible densité de la population, le climat chaud et humide et la jeunesse de la population se sont conjugués pour éviter le pire. Voilà.
Bon. Donc, la Grande-Bretagne serait dirigée par des reptiles...
Et la famille britannique serait constituée de lézards. Est-ce que tu avais remarqué, Bernard, qu'il y avait un petit air de lézard? Je ne sais pas chez lequel.
Luc, un peu de respect pour l'institution, s'il te plaît. C'est quand même...
C'est notre chef d'État.
C'est ta reine.
C'est ma reine et la tienne. Oh. Toi, tu y as porté serment, moi pas encore.
Oublie-les pas.
Moi, j'ai pas encore porté
serment. Elle a le brelon, la reine. Si t'es pas fin, elle va t'envoyer ses lézards. Tu vas voir.
Je, Bernard Brinville, déclare solennellement que je serai fidèle et porterai vraie allégeance à Sa Majesté la Reine Élisabeth II.
Ah!
Arrête!
Bernard, tu peux fouiller tant que tu veux, tu trouveras jamais de bande sonore. Tu m'entendrais dire, je prête serment à Sa Majesté la Reine, il y a un gars que je connais qui est à l'autre bout de la mort, Bernard. Bernard, tu l'as fait.
Avec ton histoire de régiment, là, colonel honoraire, machin chouette, là.
J'ai pas porté serment, c'est vrai, je l'ai sur mon mur ici.
Ben oui.
OK, Élisabeth II, qui a fait de moi Luc Lavoie, un colonel honoraire.
Et voilà!
Mais je n'ai pas eu à lui prêter serment. Il y a toute une différence, mon Bernard, faut que tu vives avec.
J'ai pas un cadre de la reine, moi, là, accroché.
Non, mais t'as une bande sonore qu'on entend régulièrement sur les ondes du 98.5, merci beaucoup.
Je crie au complot. Là, je suis complotiste. Larry et Luc sont des complotistes, mesdames et messieurs. Messieurs, toutes les fois qu'on parle de la reine, on entend toujours la même affaire. Bon, OK, Luc, on se reparle un peu plus tard de ce débat entre Trump et Biden demain soir. Mais entre-temps, on va vous parler un petit peu du secteur de l'aviation et de tous ces efforts que nos pilotes d'avion font pour se recycler dans toutes sortes de domaines autres que l'aviation, en espérant qu'un jour, l'aviation va reprendre de l'altitude.
COVID-19. Dès 17h30 aujourd'hui au réseau Cogeco. Importante annonce sur le niveau d'alerte du premier ministre François Legault qui sera accompagné du ministre de la Santé Christian Dubé et du directeur de la Santé publique, le docteur Horacio Arruda. Soyez des nôtres pour connaître tous les détails avec Patrick Lagacé et ses collaborateurs.